Bonjour.
Bonjour.
Émission Microscope, 6e édition. Émission présentée par les membres du label Rude Awakening. Cette semaine, c'est une émission spéciale New York. On a vu la Norvège, on a vu le Japon par deux fois. Cette fois, c'est la grosse pomme, c'est New York. Vous venez d'entendre en introduction un morceau d'un groupe new-yorkais. Alas Noxis, tu peux en parler peut-être, Aurélien?
Je peux en parler rapidement, c'est un groupe un peu phare du batteur Jim Black. Donc c'est un groupe qui regroupe des musiciens qu'on connaît bien, qu'on aime bien.
Ilmar Jensen,
Voilà.
Skúli Sverrisson
Et
et
Chris
Crispy.
Speed, un super clarinettiste. C'est un groupe original puisque contrairement au jazz new-yorkais dont on peut avoir l'image un peu ancienne, c'est un groupe très moderne puisqu'ils allient jazz et presque pop musique.
Voilà, il y a beaucoup d'influences de Sonic Youth qu'on entend.
Voilà, alors il n'y a pas de chanteur, mais c'est vraiment un format pop. Les morceaux font 3 minutes et quelques, et
Voilà.
c'est vraiment très mélodique, très calme.
Et on va dire que la clarinette remplace le chant. Ben justement, le leader de la formation Alas Noxis, on va le retrouver dans le titre qu'on va écouter maintenant. Alors, le titre est tiré d'un album d'Hillary Eskelin. L'album s'appelle Ten. Hillary Eskelin, qui c'est ce monsieur? Ben c'est vraiment un saxophoniste, alors là, pour le coup, très, très important, qui tient la scène depuis plus de 20 ans, la scène new-yorkaise. Son trio très célèbre avec Jim Black et Andrea Parkin, c'est ici en fait un sextet. Donc on a Hillary Eskelin, Andrea Parkin au piano, accordéon et sampleur, Jim Black bien sûr, Mark Hibbo, très connu, guitariste très connu à la guitare, Melvin Gibbs à la basse électrique. Alors Melvin Gibbs, c'est un bassiste qu'on peut retrouver notamment dans des groupes de hardcore tels que Rollins Band, c'est un musicien très éclectique. Et enfin, Jessica Constable au chant. Le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Ask to Be. Vous êtes sur Divergence FM et ce morceau est tiré de l'album d'Hillary Eskelin, Ten.
vient d'écouter ce morceau d'Esqueline et c'est un disque intéressant parce que c'est très révélateur de la scène new-yorkaise puisque ça mélange là encore pas mal de styles, pas mal d'influences. Alors c'est très particulier à New York, on n'a pas du tout ce genre de choses en France avec des musiciens qui sont issus du jazz, donc qui jouent le jazz, mais qui sont très influencés par d'autres esthétiques et qui se mélangent dans d'autres esthétiques, qui vont pouvoir jouer dans différents styles. Esqueline, c'est vraiment quelqu'un qui peut jouer hard bop, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, on va dire, et qui là est dans un rôle complètement différent, et c'est identique pour les autres musiciens de ce disque. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique, je pense, de New York, qui est très différente de ce qu'on peut entendre en France, c'est le non-cloisonnement des musiques et des styles.
Et accepter de se mettre à nager à permanence, comme c'est le cas, parce que là, c'est un enregistrement, ce disque a été fait vraiment en 2 jours, et les musiciens ont été réunis, il n'y avait pas des choses très écrites, et du coup, c'est beaucoup d'improvisation, mais très, très concerté. Alors justement, au niveau musicien d'importance, c'est peut-être le musicien qui a le plus grand rayonnement au niveau mondial de la scène new-yorkaise, c'est le musicien sans doute le plus connu, c'est
John Zorn.
John Zorn, alors John Zorn au départ est
saxophoniste.
Voilà, saxophoniste alto. Tu peux en parler peut-être
pour John Zorn, c'est une figure de la scène new-yorkaise, c'est pas récent, hein, ça date d'il y a 30 ans. C'est aussi quelqu'un qui a commencé par le jazz, plutôt traditionnel. Il y a un album fameux qui s'appelle News for Lulu, qui est vraiment un album en duo avec un tromboniste qui est magnifique. Et puis, c'est un musicien qui a progressivement divergé vers des esthétiques très différentes, parfois très radicales. C'est aussi un grand compositeur, c'est-à-dire qu'il écrit pour d'autres groupes. Donc, ça sera le cas dans ce qu'on va écouter là.
Voilà, il écrit énormément, d'ailleurs.
Voilà, il produit beaucoup. Il a son propre label qui s'appelle Zadig, qui est un des plus gros labels, on va dire, en jazz contemporain ou jazz actuel, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui sort 4 disques par mois ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, c'est assez énorme, en fait. Et le morceau qu'on va écouter maintenant est tiré d'un album, un album concept sur un empereur romain, Héliogabale. L'album s'appelle Six Litany for Héliogabalus. Alors, particularité du projet, comme ça arrive souvent à John Zorn maintenant, sans doute très occupé, il a quand même le temps de composer, mais il ne joue pas sur ce disque. Alors, c'est un de ses projets les plus radicaux, c'est assez hardcore, vous allez voir. On retrouve des musiciens qui lui sont familiers, il y a Joey Barone à la batterie, Trevor Doon, le bassiste de Fantomas à la basse, Fantomas qu'on retrouve d'ailleurs avec Mike Patton au chant. Donc voilà, Mike Patton qui s'inclut dans des projets comme ça assez lointains de Faith No More, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est très radical. Il y a aussi Jamie Shaft au clavier, je ne sais pas si je l'ai dit, et donc John Zorn qui compose.
Et qui dirige.
Et qui dirige, donc vous allez voir, c'est très hardcore. Ceux qui sont habitués à Mike Patton risquent d'être assez surpris par rapport à ses anciens projets, mais finalement, c'est dans la continuité de ce qu'il peut faire maintenant. Donc, le morceau s'appelle Litany 5, c'est le 5e morceau de Six Litany for Héliogabalus.
Donc voilà, un morceau composé par John Zorn et interprété là encore par des musiciens new-yorkais. Et toujours cette particularité, comme le précédent morceau, d'associer des musiciens de jazz et puis des musiciens qui viennent d'autres univers, en particulier Joey Barone et Trevor Dunn, qui peuvent jouer vraiment le jazz traditionnel,
voilà,
tout ce qu'il y a de plus traditionnel.
Comme le rock le plus brutiste.
De manière très bien d'ailleurs, comme voilà, des choses très extrêmes, métal et ainsi de suite.
Voilà, et ce disque fait partie d'une, en fait, c'est d'une quadrologie maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il y avait le premier album Moonchild, ensuite il y avait Astronome, Sixitani Forêt le Gabalus, et le dernier sorti l'année dernière qui s'appelle The Crucible. C'est un hommage à Antonin Artaud et à Aleister Crowley, plein de figures un peu de l'underground, de la littérature, et qu'aime bien mettre en avant John Zorn.
Alors pour finir un peu sur John Zorn, on peut dire que c'est un personnage marquant de la scène new-yorkaise aussi parce qu'il est structurant sur la scène new-yorkaise, c'est-à-dire qu'il a son propre label avec lequel il produit énormément d'artistes, et puis il gère aussi un club, alors on ne sait pas si c'est lui qui le gère exactement, mais en tout cas c'est lui qui s'occupe de la programmation. Deux clubs en fait, un club qui a fermé, un club mythique pour le jazz expérimental qui s'appelait Le Tonic, qui a fermé parce que pour des histoires de voisinage a priori, et puis actuellement un autre club qui s'appelle The Stone. Et donc qui est aussi là un lieu mythique pour tous les musiciens de jazz contemporain, de jazz actuel, qui pratiquent l'expérimentation et les mélanges. Et alors, on peut s'attendre à un lieu mythique, donc très grand et tout ça. Et en fait, c'est minuscule, c'est une scène toute petite, mais c'est plein à craquer, évidemment.
Voilà, comme souvent à New York,
voilà,
les problèmes de place.
La particularité, c'est que cette scène est extrêmement dynamique, mais c'est aussi une scène extrêmement fragile financièrement, qui vit sur des bouts de ficelle et...
Alors maintenant, un projet assez particulier, c'est un grand ensemble. Les deux instigateurs du projet sont John Coxon et Ashley Wells. Alors John Coxon et Ashley Wells, c'est deux musiciens issus, ben, pour le coup, pas du tout du jazz. C'est des musiciens issus de la techno, de la scène drum and bass londonienne, plutôt anglaise on va dire. Ils ont eu l'idée de rassembler dans un projet qui s'appelle Spring El Jack, nombre de musiciens, alors... principalement issu de New York. Il y a bien sûr Tim Bern, le saxophoniste qui joue ici de l'alto et du baryton. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Il y a le batteur Guillermo Brown, le batteur de David Essware. Il y a aussi Matt Maneri, on va en reparler aussi au violon. Evan Parker, une figure, un anglais, figure incontournable au sax soprano. William Parker, un grand contrebassiste new-yorkais. Matthew Shipp, voilà. Et plusieurs d'autres encore. On va écouter le morceau qui s'appelle Red Worm. L'album s'appelle Messies, c'est paru en 2001. Vous allez voir, c'est toute une science du montage et de l'expérimentation. Les deux musiciens qui ont rassemblé ces musiciens pour mettre en place toute cette musique ont fait un boulot assez remarquable, je trouve. Et c'est un morceau assez émouvant, donc il s'appelle Red Worm.
Thank you.
Donc d'écouter Spring Eljack et on vous rappelle que vous êtes toujours sur Divergence FM au 93.9 et maintenant
on va écouter un album qui s'appelle Fine du trio Artzell qui est en fait un trio de Tim Bern. Alors Tim Bern c'est un saxophoniste new-yorkais très réputé, donc c'est un musicien qui a une cinquantaine d'années qui a géré énormément de projets tous dans l'esthétique jazz contemporain, on va dire, et qui s'entoure généralement des mêmes musiciens. En particulier, depuis une dizaine d'années, il s'entoure de deux musiciens, un claviériste qui s'appelle Craig Taborn, et puis un batteur Tom Rainey, tout à fait exceptionnel. Et ces musiciens le suivent sur différents projets, plus ou moins gros. Alors, Tim Bern y joue aussi beaucoup avec Marc Ducret, ça a été un peu la révolution d'ailleurs de Marc Ducret quand il est allé à New York. Donc là, c'est un trio. Ils reprennent beaucoup de morceaux qu'ils ont joués en plus grosse formation, mais c'est réinterprété de manière tout à fait exceptionnelle.
Et vous allez voir, Tim Bern, c'est une façon d'écrire la musique très particulière, une sorte de jazz déstructuraliste. Hein. Enfin, c'est quelque chose de très particulier qui joue beaucoup sur les cellules rythmiques, sur la polyrythmie, sur le faux semblant, enfin, plein de choses comme ça. Donc, Tom Rainey, batterie. Craig Taborn est ici sur cet album, plus particulièrement au piano, ouais. Je crois. Et Tim Bern, qui des fois joue du baryton, mais qui est ici au sax alto. Et composition, bien sûr.
Et composition. Et direction. Et le morceau s'appelle I Thought You Had It.
Je pensais que tu l'avais.
Et après Tim Byrne, donc saxophoniste contemporain de la scène new-yorkaise, on va faire un retour vers le passé, vers l'histoire de New York.
Alors l'histoire de New York, c'est à la fin des années 70, un mouvement très important qui a pris naissance, en fait, le premier album Manifest, c'est une compile mise en œuvre par Brian Eno, où on retrouve Lounge Lizard et le musicien dont on va parler maintenant, qui s'appelle James White. Donc c'est le mouvement No Wave, pas New Wave, No Wave, et cet album emblématique, cette compile emblématique, c'est No New York. Alors le mouvement No Wave, ben, c'est un mouvement qui mélange le punk à des esthétiques plus jazz, c'est assez varié. Alors James Chance, c'est une figure très particulière, c'est très drôle si vous avez l'occasion de le voir en photo. Il s'appelle des fois James White, il a fait des albums de disco. Donc là, on va écouter un morceau tiré de son premier album, c'est le premier morceau du premier album. Cet album s'appelle Bye, il a une pochette très particulière, très dans l'esthétique de l'époque. Son groupe s'appelle The Contortion et le morceau qu'on va écouter s'appelle Design to Kill. Alors vous allez voir, c'est une musique complètement hybride. Le rythme est assez funk et afrobeat, même on peut dire. Lui, il est fan de James Brown, donc il s'écorche la voix à essayer d'être soul. Au sax, parce qu'il joue du sax aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça ressemble un peu à du Ornette Coleman encore plus déjanté. Donc voilà, c'est une tentative de fusion entre l'afrobeat, le punk, le free jazz, le funk aussi. Ce qui est assez drôle, qui fait tout le charme de la musique, c'est que ça ne groove absolument pas, c'est très très raide, mais du coup c'est ce qui fait la particularité et c'est vraiment une figure historique qui est revenue sur le devant de la scène il y a quelques années. Donc James White ou James Chance, suivant les albums, le morceau s'appelle Design to Kill et il porte bien son nom. On écoute.
James Chance,
White.
James White. On va écouter maintenant Matt Maneri, donc une autre figure de la scène new-yorkaise, un violoniste qui est le fils en fait de Joe Maneri,
Joe Maneri.
saxophoniste ultra réputé de la scène new-yorkaise, donc de la génération d'avant, qui travaille beaucoup sur la microtonalité et
Voilà.
donc sur les micros intervalles.
Alors.
Alors, très particulier à écouter, moi personnellement je déteste, mais Julien va vous en parler un petit peu quand même.
Voilà, alors microtonalité, coup de génie ou arnaque pour certains, une façon de diviser l'octave en je ne sais pas combien de millions de notes.
64.
64, donc les musicologues, s'il en est qui écoutent cette émission, doivent bien se marrer. Mais il y en a qui y croient, et c'est comme toutes les sectes, c'est comme tous les raéliens, ça fait le charme du truc. Enfin, moi, je trouve que le concept est chouette. Alors, vous allez voir, c'est peut-être pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre au niveau notes, ça accroche un peu l'oreille des fois. Alors, cet album de Matt Maneri, donc le fils de Joe Maneri, s'appelle Pentagone. Alors, je vous laisse imaginer un peu le concept qu'il y a derrière. Voilà, moi je trouve cet album très intéressant, à part quelques interventions un petit
Relativement
peu
hétérogène, on va dire.
voilà, hétérogènes. Il y a quelques beats hip-hop de temps en temps qui sont l'œuvre justement de Craig Taborn, le clavier qu'on a écouté avec Tim Bern juste avant, qui sont assez foireux, je trouve, on peut le dire. Mais le reste de l'album est assez intéressant. Et on trouve. Plein de musiciens, donc Tom Rainey qu'on a pu entendre, John Herbert à la basse, Jimmy Shaft au mellotron, voilà, un super claviériste. Et puis voilà, Matt Maneri joue ici des violons acoustiques et électriques. Et on va écouter un morceau de cet album qui s'appelle Third Hand, The Fallen. Voilà, bonne écoute.
Donc on vient d'écouter un morceau de Matt Maneri et puis en fait je voudrais me racheter un petit peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ce concept de micro-tonalité c'est pas du tout une arnaque. Hein. Il se trouve que il y a des fondements théoriques et puis c'est des gens qui savent vraiment le jouer. Alors moi j'ai jamais assisté à des masterclass avec le père Joe Maneri, mais
Apparemment, il peut chanter.
voilà, il peut vraiment chanter des intervalles, des micro-intervalles et de manière très très rigoureuse et après les rejouer au saxophone. Donc c'est pas du tout de l'esbrouf quoi. C'est vraiment travaillé, c'est vraiment ressenti. Alors effectivement, ça frotte beaucoup l'oreille. Moi, ça me déstabilise trop l'oreille pour que j'arrive à apprécier cette musique, mais le concept est de toute façon très intéressant.
Voilà, des musiciens aussi comme Steve Coleman sur ses albums récents expérimentent ce genre de choses, voilà, avec des chanteurs et
De manière tout aussi dérangeante.
voilà. Il y a même une anecdote à ce sujet. Au moment où il devait jouer ses morceaux en studio, Steve Coleman, donc il commence à faire les prises avec les musiciens, avec les chanteurs, et l'ingénieur du son arrive en cabine tout affolé en demandant si c'était un peu normal ce qui se passait. Il comprenait pas, et Steve Coleman lui disait non, non, c'est tout à fait ça. Donc voilà, c'est une musique. Si vous avez l'occasion d'écouter les derniers albums de Steve Coleman, il passe souvent au jam, presque tous les 2 ans, donc vous pourrez avoir l'occasion de voir ça. Donc il travaille aussi un peu là-dessus. Mais c'est vrai que Joe Maneri a poussé le truc.
Je pense que Joe Maneri, c'est vraiment la figure. Si vous avez des albums à écouter en microtonalité, si ça vous intéresse, allez écouter du Joe Maneri. Et je pense qu'il a dû écrire aussi un peu sur le sujet, un peu théoriser sur le sujet. Donc,
Voilà.
malheureusement, il est mort, donc il n'y aura plus de masterclass possible avec lui.
Voilà, mais y en a qui ont repris le truc. après ce petit débat sur la microtonalité, et vous avez pu entendre un autre morceau. Alors cet autre morceau, on ne l'a pas annoncé, on l'annonce maintenant un peu à rebours. C'était un morceau de Martin Medeski et Wood, qui est tiré de l'album The Dropper, paru en 2000. Le morceau s'appelait Partido Alto. Alors Martin Medeski et Wood, c'est un groupe qui a eu et qui a toujours son petit succès chez les Jones à la cool, on va dire, qui veulent se mettre un peu aux musiques un peu expérimental. Cela dit, c'est super musicien. C'est un peu injuste ce que je dis parce que voilà, c'est une chouette musique qui joue beaucoup sur les grooves, sur les sons un peu trafiqués, sur les sons un peu lofi, très 70s. Donc il y avait Billy Martin à la batterie, John Medeski au clavier, l'orgamon plus particulièrement, et Wood, dont j'ai oublié le prénom, à la basse électrique et à la contrebasse, plus plusieurs invités.
Et maintenant, on va écouter un album de Drew Grace, alors qui s'appelle Seven Black Butterflies. Alors Drew Grace, c'est un contrebassiste, toujours figure lui aussi de la scène new-yorkaise.
Il a joué avec Tim Bern aussi.
Voilà, et alors ce qui est intéressant avec cet album, c'est qu'il reprend des musiciens qu'on a déjà écoutés, Tim Bern, Tom Rainey et Craig Taborn, qu'on a écoutés en trio, et là, donc il y a Drew Grace en plus, et puis aussi un trompettiste très connu qui s'appelle Ralph Alesi. Donc voilà... toujours cette particularité de la scène new-yorkaise avec beaucoup de musiciens très actifs qui circulent entre les projets, qui montent leurs propres projets, mais qui invitent des musiciens à jouer sur leurs disques pour lesquels ils jouent sur d'autres projets, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de gros micmac, mais qui du coup est extrêmement créatif.
Donc là, la particularité, c'est qu'il y a un producteur, un gars au son qui est musicien à part entière dans l'histoire, c'est David Thorne.
Pardon,
voilà, c'est ça. On a été un peu lent. Alors David Thorne, c'est une façon très particulière de mettre le son en espace. On aime ou on n'aime pas. Bon, c'est tendance, il y va avec des gros sabots des fois. C'est un son très présent, très compressé.
Oui, et puis il aime beaucoup aussi travailler avec des effets. Voilà. Alors, bon, pas trop sur cet album, mais il a produit certains albums de Tim Bern sur lesquels il retravaille vraiment le son. Il fait aussi du montage très violent, sans pincettes. Et ce qui donne un certain charme à cette musique.
Alors,
David Thorne, ce qui est particulier, c'est qu'il est à moitié sourd.
Oui, il est à moitié sourd, et il se met sur le côté pour mixer.
Oreille, en fait.
C'est assez rigolo, voilà. Mais c'est aussi, avant d'être un producteur, c'est aussi un guitariste très réputé, qui a joué notamment dans les années 80 sur le label ECM, il a fait beaucoup de disques. Il a produit un disque pour David Bowie, sur lequel il joue, je crois que c'est Outside, mais je ne suis pas sûr. Il a joué avec Michel Nejocello aussi, la grande bassiste de funk américaine. Je ne sais pas si elle est new-yorkaise, je crois qu'elle est de Philadelphie, enfin je ne sais plus trop. Voilà, plein de projets comme ça.
Donc voilà, encore un musicien polyvalent qui passe derrière les machines, tout comme John Zorn passait à la composition, à la production et à l'organisation de concerts. Vraiment caractéristique de cette scène new-yorkaise, des musiciens qui jouent avec tout le monde, qui sont très polyvalents dans les styles, très polyvalents dans les esthétiques, qui travaille dans un réseau, dans un micro-réseau de musiciens contemporains, qui a beaucoup de mal à survivre, mais qui continue par dynamisme, et qui du coup est aussi extrêmement créatif pour un milieu pourtant où il y a si peu d'argent.
Voilà. Un milieu où il y a si peu d'argent, et c'est le morceau sur lequel on va se quitter, en tout cas pour les albums en écoute, avant de passer à notre petite sélection live du mois. Alors le morceau s'appelle Low Slung, High Strung, et c'est tiré de l'album Seven Black Butterflies. C'est Microscope, c'est Divergence FM 93.9.
Alors maintenant, on va passer à notre séquence live du mois. Comme tous les mois, on va vous faire écouter un concert qu'on a organisé à Montpellier. Donc là, c'est un trio de jeunes musiciens parisiens qui s'appelle
Q.
À la française. Q. Et donc, ces musiciens, alors, ils sont relativement jeunes, ils ont moins de la trentaine. Et ils s'inspirent beaucoup de la scène new-yorkaise, au moins dans l'attitude, puisqu'ils sont eux aussi investis sur de très nombreux projets qui peuvent être parfois très jazz, comme Sylvain Darifour à la batterie, qui a joué notamment avec Michel Portal, et qui là, on va l'entendre dans un registre très différent. Julien Després, donc, qui est à la guitare, qui joue dans Contrabande, donc un des groupes du label, mais qui joue aussi dans des opéras de musique contemporaine, et qui là, est là donc, dans une esthétique presque métal, qui joue d'ailleurs dans un trio qui s'appelle DDJ qu'on avait programmé il y a quelques mois, qui est très proche du métal. Et puis à la basse électroacoustique, c'est Fanny Lafargue, une jeune contrebassiste qui est vraiment une figure montante de la scène parisienne. Donc voilà, on vous laisse avec une séquence live de Q au Baloir.
Fanny Lafargue à la basse. Et Julien est prêt, guitare.
Et voilà, c'était un extrait de Q au Baloir, le trio parisien. Dans les concerts qu'on organise dans le mois à venir, je peux vous annoncer qu'on jouera le lundi 8 mars au Baloir à 20h30. Ce sera le Grand Ensemble de Awakening. Donc, Grand Ensemble de Awakening, c'est une formation à géométrie relativement variable.
Oui, de 2 à 45 000.
Voilà, donc, bon, 10, disons.
Voilà.
Et ce soir-là, on sera probablement 5 ou 6 et il y aura en particulier les musiciens de Tweets, un des quartets du label. Et puis, autre concert qu'on organise ce mois, ça sera le 26 mars à l'Oignon Givré, donc un petit lieu rue de l'Université. Ça sera un duo acoustique, Eddie Boubacar, Soizic Lebras. Alors Eddie Boubacar, c'est un musicien qu'on a déjà invité plusieurs fois à Montpellier. C'est un saxophoniste toulousain qui est très radical dans sa démarche, mais qui produit des choses extrêmement intéressantes dans l'aspect plutôt free jazz. Et Soizic Lebras, c'est une violoncelliste qui nous vient de Rennes.
Alors, pour les concerts un peu plus lointains, on l'avait déjà annoncé à l'émission spéciale Japon, il y a le concert d'Otomo Yoshihide. Alors, ce concert, c'est pour le festival Delco, qui aura lieu le 7 mai sur Nîmes, en plusieurs lieux. Le festival aura lieu sur une semaine, Otomo, c'est le 7 mai. Il y a Tweets, toujours, un groupe du label Rugged Awakening en première partie. Et c'est un festival organisé par l'association Trig, et auquel on participe. Donc voilà, c'est un partenariat. Et il y a aussi autre chose en juin.
Oui, donc en juin, on organisera un premier festival. Donc ça sera une seule soirée pour le moment, en espérant qu'on pourra continuer dans les années à venir. Alors ça sera le 18 juin, ça sera au Mas-Dieu de Montarno, donc à côté de Montpellier.
Voilà, un lieu magnifique.
Hein. Un lieu très très beau dans la campagne. Et ça sera une soirée tournée vers les musiques actuelles, ou jazz contemporain, musique improvisée, jazz actuel, peu importe le terme. Qui regroupera donc Claude Chamichian en solo, contrebassiste marseillais, le trio de Marc Ducret. On invitera aussi avec le trio qu'on a avec Jean-Pierre et Adrien Denfeld, un violoncelliste de Paris. On invitera Hans Poulsen, un invité de Marc. Oui, Hans Poulsen, guitariste
de Das Kapital, qui joue avec Édouard Perrault dans plein de groupes.
Voilà, qu'on a écouté sur cette émission il y a quelques temps. Et puis on finira avec Jonah, donc un artiste du label, un DJ expérimental, qui produira un set DJ pour la fin. Ça sera le 18 juin. Mais on vous en reparlera de toute façon d'ici là.
C'était la 6e édition de l'émission Microscope.
Que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog du label. Donc l'adresse c'est blog.rude-awakening.org. On met toutes les émissions régulièrement, donc vous pouvez réécouter les archives. Et puis on essaye de mettre quelques bonus, en particulier les interviews des artistes qu'on diffuse en partie. On essaye de mettre un peu plus large, et pareil pour les lives, de mettre un peu plus de morceaux sur le blog. Donc n'hésitez pas à les visiter, vous aurez aussi toute l'actualité de ce qui se fait en jazz contemporain dans la région et un petit peu plus largement.
Donc on se quitte avec l'album de Jim Black qu'on a pu écouter déjà un peu en intro. Voilà, c'est un album qui nous plaît beaucoup et on va se laisser sur ça. Cet album a un titre magnifique, ça s'appelle Dog of Great Indifference. Bonne soirée.